carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean-Françoise Prissigo, jeune photographe de 30 ans, vient de recevoir le prix de photographie de l'Académie des Beaux-Arts pour Anima, un ensemble photographique en noir et blanc qui recouvre un bestiaire tout en hommage au regard des animaux, à la fluidité de leur gestuelle et nous donne ainsi à voir leur muette éloquence, instant insaisissable, un art dont il s'affranchit avec poésie et mystère. Jean-François Sprissigo, bonjour.
Bonjour.
Alors Anima n'est pas votre premier travail, vous êtes né en Belgique et vous avez étudié la photographie à l'INAS, à Bruxelles, l'Institut National Supérieur des Arts du spectacle.
Mais j'ai étudié le cinéma à l'INSAS.
Ah d'accord, le cinéma en particulier.
À l'INSAS, la photo, je l'ai faite l'équivalent du lycée en France.
Oui.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pourquoi la photo? C'est qu'en amont, moi j'ai énormément de respect pour les arts matériellement pauvres, c'est-à-dire que ça soit la composition ou le dessin, parce qu'à partir de rien, on crée des univers. Et je ne savais pas quoi faire, j'étais pas très bon à l'école, et je me suis mis en artistique parce que j'avais besoin de cette liberté-là. Et comme je n'arrivais pas à dessiner, c'est la vraie vérité là, que je révèle, j'ai regardé la section où il y avait le moins de dessins, qui était la section photo. Et donc ça a démarré par une carence, qui était celle de ne pas savoir dessiner, mais de vouloir m'approprier néanmoins une discipline artistique. Et ensuite, mon cursus a fait que comme je suis sorti de la section photo au lycée avec ce qu'il y a de plus bas, je me suis mis dans le cinéma qui a toujours été pour moi, je suis un enfant du cinéma, pas de la photo. Et je me suis lancé ardemment dans le cinéma, tout en maintenant ce que j'estime être un journal photographique. C'est-à-dire mes prétentions photographiques sont de l'ordre du journal.
D'accord. Donc vous êtes sorti diplômé en 2002.
Oui.
Et vous avez travaillé comme metteur en scène, aussi comme cinéaste. Donc.
Tout à fait.
Et finalement, c'est la photographie qui vous a révélé.
Complètement.
Alors, je vous présente un petit peu avant de revenir aux questions. Vous avez déjà à votre actif plusieurs séries. C'est peut-être pas le bon terme, mais bon, c'est par souci... De clarté, que j'essaie que j'utilise ce mot.
C'est très juste de dire même des séries, parce que moi-même, effectivement, dans ce pêle-mêle à la fois chaotique et rigoureux de ce journal que je tiens, le fait d'avoir à faire une expo et de la conditionner en série, c'est-à-dire d'extraire vraiment une histoire de ce flot, ça permet de structurer et ma pensée et aussi ce que j'ai fait. Donc je ne photographie pas par série, mais je conçois les expositions par série. Donc vous avez entièrement raison de les qualifier ainsi.
D'accord, alors tant mieux. Donc à votre actif, on va dire, au niveau des expositions et de ces séries, issues de tout votre travail, il y a Silencio en 2005, Notturno en 2007, Prélude en 2008 et puis Anima.
Tout à fait.
Là en 2009, pour lequel vous avez été récompensé par le prix de photographie de l'Académie des Beaux-Arts. Et la première question, c'est comment avez-vous appris la photographie, Jean-François Sprissigo?
La photographie techniquement, de manière au final assez scolaire à l'école, mais à regarder, j'en fais d'ailleurs témoignage au sein du texte dans leur série de la Revue des Deux Mondes, je l'ai appris de manière très humble, c'est-à-dire j'ai vécu une partie de mon adolescence chez ma mamie, et qui avait un chien, et je le promenais souvent, je suis resté, d'ailleurs je ne suis pas incroyablement social. Et vous savez, quand vous marchez avec un animal, pour des raisons X ou Y, il s'arrête et focalise sur quelque chose. Souvent, ce qu'on croit être notre intelligence fait qu'on tire sur la laisse en lui disant qu'il n'y a rien et on continue. Et un jour, je me suis offert ce luxe de m'arrêter moi-même, de me mettre à sa hauteur et de prendre le temps de regarder. Donc, en fait, ce chien m'a d'abord appris à m'arrêter et à regarder la nuit, les ombres, et à voir qu'on ne voit en vérité qu'aussi avec ses oreilles, qu'il nous faut être à l'écoute des choses pour pouvoir les voir. Et ce chien-là m'a vraiment permis d'aborder la photographie, ou devrais-je dire un regard, vu que les disciplines que je pratique, je fonctionne de la même manière, à travers les sens et non pas à travers le raisonnement, à travers les instincts.
À travers les sens.
Oui, et les instincts.
Et les instincts. Alors, ce chien qui vous a accompagné, que vous avez accompagné, vous faisiez des balades nocturnes.
Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que là d'où je viens, en Belgique, il y avait, c'était très étrange d'ailleurs, à proximité de ma grand-mère, il y avait un C'est un site où il y avait un asile. Et ce site, à l'époque, maintenant, ça s'en est terminé, il est fortement grillagé, était parsemé d'arbres. C'était très étrange d'avoir ce mélange de nature et quelque part d'enceinte, de démence. On voyait bien, c'était des murs très hauts. Oui, un asile.
Et on pouvait s'y promener, c'est ça ?
Je sais que ça paraît paradoxal, mais oui. Mmh. Et tant et si bien, même, vous aviez l'asile et plus loin, vous aviez la prison. Et je me souviens qu'il y avait des lumières, c'est quelque chose dont on ne peut pas se rendre compte sans l'avoir vécu, avec, vous savez, ces phares de prison qui balayaient les champs alentour où se trouvaient les vaches et autres. Et ça créait vraiment un climat très étrange de se retrouver là vers 1h30 du matin, juste avec un chien. Et Tournai est une ville, en tout cas sur ce site-là, quand vous y aventuriez bien profondément, il n'y avait pas de son autre que ceux que vous déclenchiez vous-même. Vous savez, cette étrange sensation quand on se met à s'entendre déglutir ou respirer. C'est quelque chose auquel je suis très attaché.
Et tout ça dans la solitude avec l'animal ?
Oui, bien sûr. Mais en vérité, c'est une solitude sociale humaine, mais vous êtes extrêmement accompagné parce que le monde de la nuit, il y a énormément de choses. Il y a d'abord, vous savez, tout ce qu'on y projette par la peur interprétée à un bruit. Et puis, vous avez toute cette faune animale minuscule qui, dès que vous lui prêtez oreille, se révèle, en fait, tout simplement.
Donc vous avez appris à voir.
Oui, ah,
là,
vraiment.
À ce moment-là, adolescent, par un peu...
Et à appréhender la nuit. Ce n'est pas qu'un écran noir. Il y a des couches successives, il y a des qualités de noir. Il y a là vraiment quelque chose.
Justement, j'avais... vous parlez de la qualité de noir, c'est une question que je voulais vous poser plus tard, mais Anima est en noir et blanc.
Oui.
Est-ce que vous travaillez la couleur ou est-ce que...
Je pratique.
Quel est votre... Quel sens vous accordez à ça, à cette différence ou à ce choix ?
Mais figurez-vous que quelque part...
Parce que comme vous parlez de la nuit...
Bien sûr, mais quand je trouvais ça intéressant, alors physiologiquement, vous voyez, ça ce sont mes études qui m'ont permis de comprendre ce raisonnement-là, physiologiquement, en deçà d'un certain seuil d'intensité lumineuse, vous passez en vision de nuit et vous, comme moi, nous ne voyons plus qu'en niveau de gris. Ça s'appelle la vision scotopique et la vision de jour, c'est la vision photopique. Donc au final, toutes mes photos de nuit... Vous les avez vues telles que je les ai vues en noir et blanc. La couleur n'existe pas. Quand j'aborde la couleur, je ne l'ai fait que dans une démarche de demande, ce que je fais assez peu, car l'agent de Sarah Moon m'avait demandé de m'y essayer. Et c'est assurément un domaine vaste, mais je reste convaincu instinctivement, je ne peux pas vous donner d'argument raisonné, que j'ai encore une histoire à raconter avec ce noir et blanc et la privation supposée de la couleur.
La privation supposée.
Oui, parce que je pense qu'il y a... Enfin, vous savez combien il y a... Je me souviens, quand j'étais petit, je m'empressais de rentrer à la maison pour m'enfouir la tête dans un oreiller pour voir des châteaux. On ne voit jamais autant de choses que les yeux fermés. Donc, quelque part, c'est... je crois que nous sommes faits de telle sorte que nous dépassons par la contrainte. Donc, ce noir et blanc-là, je pense, projette davantage de couleurs et les plus belles, du fait que ce n'est plus celles que je vous propose, mais les vôtres. Et puis surtout, je pense définitivement qu'à chaque idée, son moyen approprié, tout simplement.
Est-ce que vous pouvez nous présenter justement un petit peu cette série Anima ? Quelle était votre idée de départ ? Ce à quoi vous êtes arrivé ? Qu'est-ce qui n'était pas attendu et qui s'est révélé ? Dans ce travail de 8 mois, c'est à peu près une 60aine de photographies que le public peut voir d'ailleurs, Salle Comtesse de Caen, à l'Institut de France. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette série ?
Cette série-là, et initialement, ce qui l'a instigé, c'était la nécessité de créer un dossier pour concourir pour ce prix. Et dans les contraintes de ce dossier, je dis contraintes, encore une fois, dans la même mesure que je parlais de la couleur, pas dans le sens privation, oui, mais dans le sens, voilà, trouvons des axes pour réunir les gens. C'était un sujet où il fallait tenir presque un an.
Oui.
Et pour moi, qui suis quelqu'un, et j'y travaille, de dispersé, je me disais, voilà, quel est le sujet que je peux tenir pendant 8 mois ? Parce qu'il était hors de question de... Voilà, pour moi, la question de l'intégrité et de l'honnêteté c'est nécessaire. Je n'ai pas à me justifier autrement qu'en disant que c'est fondamental dans ma vie, d'être clair au plus clair avec moi-même. Et les animaux se sont imposés d'eux-mêmes. Je ne connais aucun autre sujet à ce jour qui m'aurait monopolisé l'esprit sans m'en sentir lassé, par bêtise de ma part, hein, pas me renouveler, mais les animaux, voilà, à la fois c'est un terme général et spécifique, mais dans les animaux, il y en a tellement, vous avez vu à l'exposition, je ne me suis pas focalisé sur une espèce. Et ce que ça donnait, c'est prolonger ce que j'avais démarré, c'est-à-dire c'est ce rapport-là aux animaux. J'ai toujours...
Par rapport à votre journal, par exemple, que vous évoquiez au début.
Il y en a toujours eu. Dans toutes mes expositions, j'en ai toujours mis parce que, pas par discours militant, mais par, voilà, leur présence est nécessaire dans ma vie. Et je craignais très fort, d'ailleurs, de montrer une série entière. Je craignais par souci de lasser. Par souci de montrer, voilà, on pourrait dire, il y a le Jardin Extraordinaire pour ça. Je ne sais pas si ça existe en France. Enfin, c'est une émission animalière en Belgique. Et cette série-là, Anima, m'a... Encore une fois, ces animaux-là, s'ils m'ont appris à regarder, là, ils m'ont appris à me discipliner. Vous savez, par exemple, dans l'exposition, je me suis interdit toute imagerie exotique. Je me suis interdit toute imagerie inutilement violente. J'ai fait des photographies à l'abattoir, je n'en ai mis qu'une. Parce que je sais que même si le sujet semble éculé, il a en lui la part de sensationnel qui justifiera que le spectateur la regarde. Et ce n'est pas à travers ce sensationnel que je voulais...
C'est une démarche audacieuse, différente aujourd'hui, puis c'est vraiment singulière.
Mais je voulais précisément m'attarder... là, d'un coup, n'importe qui pourrait me qualifier de mauvaise foi, vu que l'affiche, c'est de léopard. Mais voilà, là, c'était, encore une fois, au Jardin des Plantes. La seule photo du zoo que j'ai faite, c'était parce que le zoo de Vincennes fermait et que vous aviez cette espèce de village fantôme avec les animaux qui avaient déserté, des trous dans les structures. C'était très étrange. Mais pour moi, je voulais vraiment, d'abord pour moi-même, traverser ce sujet-là à travers son apparente docilité, son apparente facilité. J'ai d'ailleurs même eu quelqu'un, j'ai le bonheur d'avoir plusieurs personnes qui se réjouissent précisément de la simplicité du sujet et de la manière de l'aborder. Et une autre personne, c'était très rigolo, ne sachant pas qui j'étais dans l'exposition, s'indigner qu'on puisse s'attarder sur des sujets aussi stériles.
Dans ce dernier travail que vous donnez à voir dans cette exposition, est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues auxquelles vous ne vous attendiez pas dans ce sujet qui vous est familier ? Tout en n'étant pas, dont vous n'êtes pas lassé, est-ce qu'il y a des choses que justement vous avez découvertes de vous, de votre travail?
Ah oui, de moi.
Peut-être.
Oui, si, assurément. Je suis très attaché à une phrase de Louis Pasteur qui dit « Le hasard profite aux esprits préparés ». J'aime cette phrase-là, d'autant qu'elle vient d'un scientifique, parce qu'effectivement, il a fallu vraiment que je donne une confiance jusqu'à l'abandon pour pouvoir aller chercher des choses qui me révèlent à moi-même. Je pense, en ce qui me concerne, que c'est la seule démarche artistique louable et de faire les choses sur la brèche et de faire les choses dans un vertige nécessaire à nous révéler. Il n'est aucune image que vous avez vue dont j'en avais même conscience au moment de la captation d'en avoir ce résultat-là. C'est d'accord. Un cheminement et j'espère que ça continuera
que ça
de la sorte.
Continuera. Comment s'inscrit justement cette série Anima par rapport aux précédentes? Vous en avez un petit peu parlé, par rapport à Silencio, Notturno, Prélude.
Elle s'inscrit de par sa rigueur thématique. D'un coup, vous savez, moi je suis très attaché à l'idée de la pensée fragmentaire, oui. Selon Sioran, qui dit que voilà, pour penser à quelque chose, en vérité on pense à autre chose. Et souvent, moi j'ai pour habitude de dire que je photographie ce que je vois les yeux fermés.
Oui.
Je ne pense pas que ce que nous vivons nous appartient. Je crois que ce qui nous appartient, c'est le souvenir que nous choisissons d'en garder consciemment ou inconsciemment. Et par rapport à ce souvenir qui souvent est diaphane et heureusement subjectif, j'aime le prisme d'avoir plusieurs sujets qui se confrontent, qui interagissent, parfois qui sont en lutte aussi, parce que ça m'apparaît être proche de cette histoire qui est la mienne. Fonctionner avec une thématique qui était celle-là, Anima, a été pour moi un travail d'exigence, un travail pour lequel j'ai, je le dis très sincèrement, je me suis également fait seconder pour l'accrochage et la sélection par un garçon qui s'appelle Guillaume Fabiani et qui m'a permis un dialogue. Parce que là, précisément, voilà, il y avait
au
beaucoup d'animaux.
Au moment de l'accrochage,
oui, au moment de la sélection, parce que vous savez... C'était tentant par frousse, hein, j'ai pas d'autre argument, de les classer par thématique, alors qu'il fallait bel et bien créer un mouvement, ce que je pense nous avons fait. Et cet échange-là avec Guillaume a été nécessaire pour trouver, pour replacer la dynamique qui était la mienne au moment de la captation.
Il y en a plusieurs, hein, bien entendu, parmi la soixantaine exposée. Il y avait beaucoup de monde le jour où je les ai vus. C'était le jour de l'inauguration. Malgré la foule, malgré le monde, j'ai réussi à les voir. Et effectivement, il y en a une que je trouve très belle. Je ne sais pas si vous leur donnez des noms, des titres ou des numéros, parce que là, il n'y a pas de légende.
J'en mets jamais, volontairement, jamais. Ce qui est très agaçant pour tout le monde. Et je ne le fais pas que par provocation. Puis après, il n'y a même pas de provocation. Je le fais parce que, alors, est-ce mes origines cinématographiques ? Je ne veux pas donner des moments, des instants, je veux donner un mouvement. Et vous savez combien une phrase, aussi courte soit-elle, dialogue automatiquement avec une image et produit un sens qui n'est peut-être pas celle de l'image. Que laisser le spectateur à l'abandon de cette image, ça lui permet ce dialogue strict et le mouvement qui est orchestré par la scénographie de l'exposition elle-même. Donc on me le reproche souvent de ne pas mettre de nom parce que c'est très agaçant quand il faut les décrire. Mais je suis vraiment attaché à cette idée de mouvement.
De mouvement.
Et de ne pas sacraliser aussi. Vous avez vu, les encadrements sont très sobres parce que je ne veux pas sacraliser la photo à travers... je ne dis pas que le moyen est mauvais, encore une fois, à chaque idée son traitement. Mais par rapport à ce travail-là, je n'ai pas envie de mettre un large bord blanc qui viserait à donner... à la photo, une valeur d'icône, alors que pour moi, c'est une traversée.
Traversée, on est toujours dans le mouvement.
Oui, toujours.
Le mouvement, le voyage. Et là, c'est une chouette à laquelle je pensais, dont on a une reproduction sous les yeux. Et j'aimerais, si c'est possible, que vous nous racontiez l'histoire de cette photo.
Cette photo-ci, vous la décrivez. En fait, vous me disiez une traversée du mouvement. Oui. Ça a été encore du mouvement. C'est un ami qui m'est extrêmement cher et qui est écrivain, dont le texte est dans la revue d'ailleurs également, qui s'appelle Marcel Moreau.
Oui.
C'est un des principaux témoins de mon parcours, témoin et ami. D'ailleurs, son amitié, j'en fais aujourd'hui la chose dont je suis le plus fier. Et il m'avait dit, suite à nos conversations, que je devrais aller au Jardin des Plantes. J'avais été extrêmement véhément concernant les eaux, estimant que je ne voyais pas quel enthousiasme j'aurais à aller visiter une prison.
Oui, c'est toujours un côté un peu mélancolique, triste.
Oui, complètement.
C'est déprimant.
D'ailleurs, c'était intéressant, figurez-vous. Je suis le roi de l'aparté, donc n'hésitez pas à me recadrer. Il y a eu des enfants qui sont venus visiter l'exposition et je demandais aux enfants, voilà, quoi ça vous fait penser les animaux ? Et les enfants ont eu la réponse que bien peu d'adultes ont donnée. Ils ont dit, c'est la liberté. Et tous les adultes ne m'ont pas dit ça. Et les adultes, ils voyaient des caractères qui les rendaient sympathiques, mais ne voyaient pas toute la fureur de ce mot « liberté ». Et les enfants le ressentaient, ça, très fort. Donc, effectivement, dans un zoo, ce mot « liberté », il est sérieusement entravé. Et donc, Marcel m'a proposé de l'accompagner. Et nous avons été ensemble. Et c'était très beau parce que c'est un monsieur, il est né en 33. Il a cette démarche et la sagesse aussi que peuvent avoir les gens de cet âge-là, parce que la bêtise souvent aussi solidaire, mais là, ce n'est pas le cas. Et on s'est rendu à l'ouverture du Jardin des Plantes. Et je suis convaincu que la présence de Marcel y était aussi pour beaucoup. Tous les animaux, nous nous sommes tous regardés, parce qu'à l'ouverture, la chance fait qu'il n'y a personne.
Et vous avez été les premiers visiteurs.
Les
visiteurs du soir, là.
Ah non, du tout. Non, on était les tout premiers. Et c'était, il y a eu des vrais regards, des vrais échanges. Et d'avoir ce monsieur que j'aime profondément et dont c'est le seul vivant que j'admire, que j'ai le luxe de pouvoir admirer. Et ces animaux-là qui sont d'une élégance, mais ce n'est pas une élégance esthétique ou cosmétique, c'est vraiment une élégance de tenue, de vie. Sans que j'y projette aucun fantasme anthropomorphique. Je les aime définitivement pour ce qu'ils sont. C'était d'ailleurs dans la démarche du travail. En aucun cas, je ne voulais projeter de l'anthropomorphisme. En amont, je sais que ça avait posé quelques questions à mes interlocuteurs, où l'on me disait, mais tu vas photographier le rapport des hommes et des animaux. Je dis, surtout pas. Surtout pas. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a aucune présence humaine en dehors de la mienne au sein de ces images-là. Parce que je tenais à ne pas projeter le caractère anecdotique qui nous rend automatiquement les animaux ou les enfants sympathiques en leur prêtant des postures adultes. Moi, je trouve ça vulgaire et grossier, pour être sincère avec vous. Et donc, cette chouette-là, on s'est retrouvés devant elle. Et elle était là. Enfin, sur la photo, je pense, c'est manifeste qu'elle sait aussi que je suis là. Nous sommes très près. Je ne travaille pas avec des zooms, je travaille avec des focales fixes. Donc,
D'accord.
Elle et moi sommes.
Parce que c'est pas très haut, c'est pas très grand.
Ah oui, tout à fait.
C'est...
Ouais. On est très proches.
Vous êtes très proches.
On est très proches l'un de l'autre. Et je pense que les animaux, on ne pourra jamais leur enlever leur caractère instinctif. Je crois que mes intentions devaient aussi lui sembler suffisamment claires pour me laisser approcher.
Et surtout, il y a un regard, mais alors là, qui est... On est un peu soufflé hein, quand on regarde vos photos. Les gens qui aiment votre travail parlent aussi de souffle de vie dans vos photos. Tout simplement, ce n'est pas un jeu de mots, mais vraiment, on est soufflé de ce moment. Mais au-delà, il y a effectivement quelque chose dans votre démarche artistique. Il y a beaucoup d'humanité dans ces photos, même si ce sont d'animaux dont vous parlez, que vous montrez sous un regard, là, le vôtre. Hein. Comment vous qualifieriez cet humanisme ?
En ce qui me concerne, il est nécessaire de la même manière, et je le dis sans chercher de posture, que je pense que la liberté a plus d'importance que la vie elle-même. En tout cas pour moi. Je ne vois en ce qui me concerne, et j'insiste bien, ça ne fait pas œuvre de vérité, que cette liberté qui par essence, pour moi, dont le mot solidaire de liberté, c'est le mot responsabilité. Et je pense que cette liberté-là ne se vit qu'à travers l'intégrité que nous avons de savoir que je ne suis ni là pour m'enrichir, en tout cas pas de manière matérielle, ni là pour le pouvoir. Et que voilà, il faut se positionner, il faut se recentrer. Et c'est très difficile parce que je suis absolument et totalement rigoureusement fait comme tout le monde, c'est-à-dire que je prête le flanc à tout ce qui à tout ce qui me flatte, à mon ego, tout ce qui rend tout ce qui baisse le discours et tout ce qui élève le statut social. J'ai eu le grand bonheur et le privilège de rencontrer Sœur Emmanuelle avant qu'elle ne décède, un mois avant. Du reste, je suis pas d'obédience catholique, mais cette femme-là, ça correspond à des tempéraments. Si vous voulez, je pense qu'il n'est pas décent de ma part d'avoir fait la démarche d'aller voir des singularités comme elle, comme Marcel Moreau, et de me positionner autrement qu'en replaçant la vie dans son sens de liberté au centre de toute préoccupation. En ce sens, Marcel m'avait fait lire un dictionnaire qui s'appelle un dictionnaire Furtière, qui est le dictionnaire du XVIIe siècle. Et j'aime l'énergie de cette langue. La définition d'enthousiasme dans le Furtière, c'est fureur poétique ou prophétique. Et je me dis, j'appartiens à cette famille. Je suis extrêmement, et ça n'a rien à voir avec le fait que je sois belge, brélien. C'est un monsieur qui a fait mon éducation, Brel. Et je pense, je ne l'ai évidemment pas connu, j'étais même pas né quand il est décédé, mais ce que dit ce monsieur, je le reçois. Je le reçois. Et je pense que la première chose à accepter à partir du moment où vous choisissez le chemin de la liberté, c'est que nous sommes seuls et que ça n'a rien de cynique. C'est probablement désespéré, mais ça n'enlève rien à l'enthousiasme dans le sens de cette fureur-là, poétique ou prophétique. Et à partir du moment où nous nous savons seuls, nous savons aussi la place que nous accordons à l'autre. Et je crois que c'est important.
Une question peut-être sur l'avenir, c'était qu'avez-vous envie d'explorer maintenant ou plus tard ?
Si vous saviez à quel point j'en ai aucune idée, c'est vraiment la réponse la plus honnête que je peux donner parce que je pourrais raisonner, discourir et en vérité, je ne sais pas. Et j'ai l'impression que si je me mets à discourir, je vais me mettre à croire en mes discours. Donc c'est d'abord pour moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai de l'ambition, ça que je pense clairement, mais je distingue vraiment le carriérisme de l'ambition. Donc ce que je vais faire là pour la suite... Et je vais continuer à m'efforcer d'être rigoureux. Et j'ai des sujets qui me traversent, dont j'ai envie d'approcher, mais pour le moment, c'est abstrait. J'ai beaucoup d'images, en final. Comme je vous dis, comme je le tiens comme un carnet, là, potentiellement, je peux tenir avec des images d'archives que personne ne connaît, d'aucune sorte. Mais moi, j'aime bien, quoi qu'il arrive, encore une fois, j'ai pas envie d'être à rebours sur mon besoin. Donc, je continue de faire.
Ce carnet, c'est quelque chose de très intime, j'imagine, de très personnel.
Il est comme les carnets aussi. Vous savez, je ne sais pas si vous en avez tenu. C'est très étrange de paradoxe de ce genre de journal. C'est qu'on est à la fois dans la crainte absolue qu'il soit lu et dans le désir qu'il soit lu pour être enfin compris. Et j'aime ce paradoxe-là, qui me paraît d'ailleurs, comme tout, au final, tout ce qui nous correspond est paradoxal, et heureusement. Parce que si, voilà, c'est ce qui permet de dire que nous sommes traversés de choses, et nous ne sommes pas des mono, nous sommes pluriels. Donc, ce carnet-là, quand je photographie, j'aime bien l'avoir fait, parce qu'au moins, quand je les revois, je me rends compte si ça raconte encore quelque chose. Vous savez combien, c'est pas parce que vous traversez une expérience heureuse ou malheureuse qu'elle serait forcément pertinente pour la raconter à autrui.
Pour les autres.
C'est d'ailleurs, pour moi, d'ailleurs, la tragédie de la littérature en ce moment, c'est de penser que vivre quelque chose fasse de nous des écrivains. Je pense pas.
Jean-François Sprissigaud, merci beaucoup pour cette interview.
Merci à vous.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne.